BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, on est ravis de vous retrouver en ce vendredi 17 mars pour vous accompagner deux heures durant au cœur du monde de votre patrimoine, c'est BFM Patrimoine. Et on commence par jeter un œil sur cette actualité économique avec Faiza Gunzi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Gunzi.
Les grandes banques américaines au secours de First Republic, une banque régionale d'une taille équivalente à celle de la Silicon Valley Bank. Elle doit faire face à la fuite de ses clients et au plongeon de son cours de bourse. JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo notamment se sont engagés à lui verser 30 milliards de dollars pour tenter de stopper le domino des faillites bancaires aux États-Unis. Les banques européennes, elles, sont solides. François Villeroy de Gallo rassure ce matin. Le gouverneur de la Banque de France souligne la différence avec le système bancaire américain. Après les annonces de la Banque Centrale Européenne, malgré la tension exceptionnelle sur le secteur, la BCE poursuit sa politique de resserrement monétaire avec une hausse de 50 points de base, selon François Villeroy de Gallo. Le maintien de ce cap est un signe de confiance. Écoutez, il était l'invité tout à l'heure de Good Morning Business.
Les banques européennes ne sont pas dans la situation de certaines banques américaines dont vous parliez.
Vous êtes sûr ?
Pour une raison très simple. Pour une raison très simple, qui est qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Les règles qui s'appliquent en Europe sont des règles très renforcées depuis la crise financière. C'est ce qu'on appelle Bâle III, dont on a souvent parlé, qui ont parfois été critiquées par la profession. On nous a demandé d'alléger Bâle III. Je crois qu'on est en train de voir l'efficacité de Bâle III. Bâle III, ça impose des règles de sécurité aux banques européennes, des règles sur leur liquidité, c'est-à-dire leur trésorerie, des règles sur leurs fonds propres. Et en Europe, la quasi-totalité des banques sont soumises à Bâle III. On est à plus de 400 groupes bancaires. Je redis que les banques françaises et européennes, elles sont extrêmement solides.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, en tout cas, vient d'apprendre que la BCE réunissait ce matin son conseil de surveillance. Un 49-3 qui ne passe pas, la contestation contre la réforme des retraites s'organise. La raffinerie Total Énergie de Normandie sera arrêtée dès ce week-end. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue par les syndicats pour jeudi prochain. À l'Assemblée nationale, après le 49-3 dégainé par Elisabeth Bornière, les oppositions vont déposer plusieurs motions de censure. L'une d'elles sera transpartisane, celle du groupe des députés indépendants Liotte. La France insoumise la soutiendra. Le président chinois attendu à Moscou dès lundi prochain, une visite d'État de deux jours qui renforce un peu plus les liens entre la Chine et la Russie. Xi Jinping et Vladimir Poutine disent vouloir approfondir leur coopération stratégique, notamment sur la scène internationale. Selon la presse américaine, le dirigeant chinois devrait également s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Casino poursuit son désengagement dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí. Finalement, le groupe français de distribution a cédé 19% du capital pour plus de 720 millions d'euros. L'opération vise à accélérer son désendettement avec 11,7% encore en portefeuille. Casino ne contrôle plus la société. Optical Center, soupçonné de fraude fiscale en bande organisée et blanchiment d'argent, l'enseigne fait l'objet d'une enquête suite à un signalement de Tracfin. Plusieurs perquisitions ont été menées hier. 7 personnes ont été placées en garde à vue. Hier, on repart aux États-Unis sous la pression politique. Sanofi va réduire de quasiment 80% le prix de son insuline la plus prescrite, le Lantus, dès l'année prochaine. Le laboratoire français emboîte le pas à Eli Lilly qui a également fait baisser ses prix.
Merci beaucoup Faiza Gunzi, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Nous tout de suite place au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext. Dis donc, finalement, Antoine, tout reva bien ou tout va re-bien ?
Quelle semaine en tout cas, et puis elle va se terminer de manière costaud encore, mais c'est vrai qu'on a une petite accalmie là quand même après le rebond de plus de 2% hier pour le CAC 40, et on grappille encore quelques points, enfin on grappille plus 0,7% quand même, hein. 7077 points, on se solidifie hein, au-delà des 7000 points. On a de belles hausses aussi du côté de l'Eurostock 50 qui gagne 1%, plus 1% quasiment aussi pour le DAX à Francfort, hein, plus 0,9% très précisément, une volatilité qui retombe, des marchés qui sont en tout cas rassurés par le cordon sanitaire monétaire interbancaire qui a été formé autour de First Republic. L'initiative vient de banques privées, que ce soit JP Morgan, Wells Fargo, vous avez entendu Pfizer. C'est le secteur bancaire qui réagit lui-même en fournissant des liquidités à un collègue en difficulté. Donc ça, ça reste quand même une initiative qui marque un petit peu cette crise bancaire à laquelle on a droit quand même en ce moment. Il y a la BCE qui fait preuve de fermeté sur ses taux d'intérêt, qui reste droite dans ses bottes et qui poursuit sa lutte contre l'inflation. Tout ça, c'est des nouvelles de nature à rassurer le marché face aux problèmes bancaires et face aux perspectives d'inflation. On a des autorités monétaires qui restent quand même extrêmement fermes et extrêmement déterminées. Bon, tout ça ne doit pas nous faire oublier les problèmes éventuellement techniques qui pourraient se poser sur les marchés. On a quand même une séance à quatre sorcières, quatre types de contrats et d'options sur indices qui vont tomber à échéance, mensuelle et trimestrielle. Donc on peut prévoir une séance assez volatile, peut-être un petit peu compliquée. On va voir ça au fur et à mesure que ces échéances se tombent. La plus forte hausse du CAC 40, elle est pour ArcelorMittal, qui gagne 3,3% à 26,29€. Et on reparle un petit peu des valeurs cycliques, des valeurs industrielles. Alstom aussi, qui gagne 2,9% à 24,36€. Et puis, les principaux artisans de cette poursuite du rebond, le secteur bancaire, avec notamment Société Générale qui se dégage bien, un gain de 3,3% à 21,95€, mais aussi Total Energy, qui gagne 2,5% à 54,61€. Alors, au vu de sa pondération, c'est un sacré soutien au CAC 40, mais il faut bien reconnaître que, depuis quelques heures, les prix du baril ont quand même pas mal remonté, alors qu'ils n'ont fait que glisser depuis le début de la semaine. On est à $75 pour le baril de Brent de Mer du Nord, et ça permet aussi à CGG de gagner 5,3% à 73 centimes d'euros. Valourec, plus 3,65 à 11,51. Tiens, puis, on parlait des valeurs cycliques et industrielles, il y a Aperam aussi, qui gagne 4,11% à 33,70. Donc, une thématique assez matière première, assez matériaux industriels qui en cours sur les marchés. Attention en revanche au secteur du luxe qui a tendance à perdre quelques plumes. Il faut dire que les taux sont un petit peu raidis sur l'obligataire, sur le 10 ans, et ça pour les valeurs de croissance et pour le luxe c'est pas très très bon. Hermès recule de 0,4% à 1757,50€. LVMH moins 0,01% à 801,60€. C'est Pernod Ricard qui signe la plus forte baisse du CAC à moins 0,54, 202,10€. Le CAC plus 0,72, on est à 7,076 points, et puis l'euro a repris des forces par rapport au dollar. On est à 1,0656, Cédric.
Merci Antoine Larigauderie. Tout de suite, on continue à parler du monde action. On vous permet d'explorer la côte parisienne en découvrant quelques pépites ou en évitant quelques chausse-trappes.
BFM Business, BFM Patrimoine, pépites et pipos.
Guillaume Magre nous attend chez GSD Gestion. Bonjour Guillaume.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Vous nous proposez un éclairage sur Téléperformance, on vous écoute.
Exactement. Donc Téléperformance, c'est une entreprise française, leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client. Donc l'activité s'organise autour de deux pôles, l'activité Core Services, 85% du chiffre d'affaires, et ça comprend la relation client, le support technique, l'acquisition de clients, les solutions de back-office avec notamment la modération de contenu et le Knowledge Services. Nous avons ensuite les activités dites de services spécialisés. Donc, c'est les services d'interprétariat en ligne, la gestion des demandes de visa, le recouvrement des créances et les services de conseil et d'assistance en ligne dans le domaine de la santé. Le marché de l'expérience client est un marché qui croît de 1,5% par an avec un fort potentiel sur la partie, en fait, externalisée. De plus en plus de sociétés font appel à des prestataires extérieurs pour gérer l'expérience client, là où par le passé, cette activité était majoritairement faite en interne. Pour nous, l'une des principales forces de Téléperformance, ça réside dans son top management. C'est une société qui communique très bien et qui, année après année, délivre les performances annoncées. C'est également une société dont l'activité affiche une grande résilience. Si on regarde un peu le parcours récent du titre en bourse, on a atteint un point bas autour de 160€ en novembre, au moment de la controverse sur les activités de modération de contenu en Colombie. Et depuis, le titre a progressé de 30%, mais reste en dessous de ses niveaux d'avant-controverse. Pourtant, si on analyse la gestion faite par l'entreprise de cette controverse, on peut difficilement faire mieux. Le management a répondu très vite en activant tous les leviers à sa disposition, avec dans un premier temps une communication claire, avec des conférences investisseurs le jour même, des audits internes et externes, un rachat d'actions pour éteindre l'incendie, et pour finir, l'arrêt pur et simple de l'activité sur les contenus les plus sensibles, soit environ un quart de l'activité modération de contenu, donc 1% du chiffre d'affaires. Sur le dernier exercice Plot Téléperformance est une croissance organique du chiffre d'affaires de 12,5%, une marge opérationnelle de 15,5% en hausse de 40 points de base et une génération de cash importante puisqu'on a un free cash flow de 703 millions d'euros en hausse de 6,3%. Autre point, la société continue également en fait à bénéficier d'un dollar fort parce que pour rappel, sur certaines divisions offshore, elle facture en dollars et paie ses salariés en devise locale. Et pour finir, je pense que c'est aussi une société qui va bénéficier de la réouverture de la Chine, notamment via sa division de gestion des visas, c'est la division TSC Contact, parce qu'en fait, en 2019, ça représentait 15 à 20% du chiffre d'affaires de cette division, là où en 2022, c'était 0% à cause de la fermeture de la Chine. Donc, on s'attend à un effet de normalisation et qu'on retrouve les 15 à 20% progressivement.
Quelques idées à avoir sur ce dossier Téléperf. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit comme objectif de cours, comme recommandation?
Nous, on a un objectif de cours à 340 euros, donc ça fait pas mal d'upside. Après, la société, elle a quand même rassuré sur l'année 2023 en assurant qu'elle aura une croissance organique proche de 10% avec une progression de ses marges. Et elle a réitéré également ses objectifs 2025. Donc, on reste assez confiant sur le dossier, sachant que là, elle se traite à un PE de 14, là où en moyenne, elle était à 23 sur les 5 dernières années.
Merci beaucoup Guillaume Magre donc, et cet éclairage proposé sur Téléperformance ce matin. Le marché parisien, lui, est en hausse de 0,59%, 7067 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Patrice Gautry est en duplex avec nous depuis l'Union bancaire privée à Genève. Bonjour Patrice.
Bonjour.
On aura tout à l'heure l'inflation finale en zone euro, ce sera à 11h. Et ce chiffre, il vient après cette décision hier contre vents et marées, j'ai envie de dire, la Banque Centrale Européenne qui a tenu ce qu'elle avait annoncé, 50 points de base, et qui a aussi, au même moment, un petit peu ajusté le tir, justement, sur toutes ces questions d'inflation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette BCE et de l'inflation ?
Oui, alors l'inflation publiée, le chiffre final attendu donc à 11h, va pas avoir certainement de grandes surprises. 8,5 contre 8,6 sur l'inflation globale, petit ralentissement, mais avec encore une inflation cœur qui reste relativement élevée, donc 5,6%. Et on voit bien que c'est là effectivement le nœud du problème évoqué par Madame Lagarde hier, une inflation trop forte qui reste trop forte trop longtemps, puisque dans les prévisions donc d'inflation, on reviendrait sur l'indice global à 5,3% sur l'ensemble de l'année. Donc il y a certes par rapport à 8,5 un ralentissement notable, mais l'inflation cœur, elle ralentit progressivement, mais trop lentement, au dire effectivement de la Banque centrale, puisque c'est l'énergie qui ralentit et donc l'inflation cœur, elle reste encore importante. 4,6%, c'est même une réévaluation donc à la hausse dans les perspectives de la Banque centrale européenne par rapport au chiffre actuel donc de 5,6. Donc on voit qu'il y a des progrès qui vont être faits, mais ces progrès sont relativement lents. Un petit mot d'ailleurs sur les chiffres de croissance qui ont été révisés pour l'année 2023. On est à 1% après 0,6%. Je pense que la croissance, elle est quand même fragile. On l'a vu dans les composantes, consommation, investissement, domestique. Donc, on peut très bien avoir une zone euro qui reste avec une activité très faible, des variations trimestrielles légèrement positives, légèrement négatives. Et on serait peut-être sur l'ensemble de l'année entre 1 et 0,6.
Bon, quand on parle croissance, inévitablement, les turbulences bancaires nous viennent en tête. Il n'y a pas de crainte ?
Oui, alors c'est... Madame Lagarde, en fait, a pu mettre en place la hausse promise de 50 points de base parce que le travail, en fait, sur la liquidité et sur les mesures, en fait, qui sont destinées à arrêter un petit peu l'hémorragie que l'on avait ou cette mini-crise dans les secteurs bancaires, le secteur bancaire suisse et le secteur bancaire américain, bien ce travail de liquidité, d'injection de liquidité avait été fait au préalable par d'une part la Fed et d'autre part par la Banque nationale suisse qui a délivré donc une ligne de crédit de 50 milliards de francs suisses donc au Crédit Suisse. Donc Madame Lagarde a pu effectivement réserver les taux d'intérêt directeurs à la gestion de l'inflation, mais bien entendu, en même temps, elle s'est dit prête à redonner de la liquidité. Et je pense, en fait, Là, c'est pour les étapes suivantes, puisqu'on a des réunions donc au mois de mai, des réunions au mois de juin. Donc, le schéma qui a été donné par Madame Lagarde, c'est on continue à monter les taux, donc probablement encore 25 points de base, à la différence des 50 que l'on a eu aujourd'hui. Mais, bien entendu, tout ça est conditionné par une certaine stabilité bancaire, c'est-à-dire est-ce que la Banque Centrale Européenne peut redonner de la liquidité au même titre que la Banque Nationale Suisse ou les banques ou la banque américaine. Ça, je pense que ce sont des évolutions. Et on a un gestion de la liquidité qui est destiné, en fait, à créer en fait, un environnement de sécurité par rapport aux dépôts et par rapport au secteur bancaire, alors que la gestion sur les taux d'intérêt directeurs, la conduite des taux d'intérêt directeurs est dirigée en Europe comme aux États-Unis d'ailleurs par la gestion des taux d'intérêt directeurs est utilisée pour gérer, contenir donc l'inflation tant au niveau américain qu'au niveau européen.
Ça veut dire qu'il y a tout de même des leçons entre guillemets à tirer pour les régulateurs, pour les banques centrales de cette crise ou mini-crise de cette semaine?
Oui, tout à fait. Alors, les leçons, le côté américain, on voit bien qu'il y a le problème de la régulation du secteur des petites et moyennes banques, où là, effectivement, la régulation est beaucoup plus légère que sur les grandes banques. Et on a vu avec les injections de liquidités qui sont intervenues donc hier, combien c'est important et on va peut-être avoir un retour de régulation. C'est important aussi, on l'a vu avec le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse était plutôt avec de bons résultats en termes de ratio d'exposition. Mais bien entendu, là, on a la confiance. Et la confiance, en même temps que les ratios, c'est également important. Et le travail, en fait, de l'Union bancaire européenne reste peut-être à accomplir ou à renforcer. On l'a évoqué, il y avait des sujets avec des positions différentes sur les garanties de dépôt. Mais on voit, en fait, que, je dirais, l'utilité de ce style de réforme dans les différentes zones, probablement, elles devront se poursuivre, voire se renforcer. Éviter effectivement le syndrome Crédit Suisse, c'est-à-dire qu'il y a une grande banque qui provoque l'effondrement potentiel d'une économie, voire avec des effets de débordement sur les autres zones.
Ça, c'est sur notre rive de l'Atlantique. Si on file aux États-Unis parce que c'est entre guillemets de là-bas que c'est parti, c'est peut-être de là-bas que ça continue aussi un peu à couver. On a de la confiance, on a de l'activité industrielle qui font partie du programme attendu aujourd'hui. Et tout cela à l'aune de ces turbulences dans les banques régionales. Comment est-ce qu'on peut lire la façade américaine ?
Oui, alors bon, le côté industriel, on voit, est assez chahuté en ce moment. On a eu plusieurs indices cette semaine sur les indices de confiance. Donc là, cet après-midi, c'est de la production. C'est assez chahuté et la situation reste encore fragile, d'ailleurs, aux États-Unis. Côté consommation, la consommation a plutôt été bonne, on a vu avec les ventes au détail, et la confiance était en situation de recomposition graduelle, ce qu'on devrait avoir encore dans l'indice de confiance qui va être publié cet après-midi. Mais non, en moins, ce qui est peut-être l'élément vulnérable, c'est que ce rebond de la confiance est axé sur un rebond de l'activité anticipé par les ménages américains. Et pour l'instant, effectivement, je dirais la crise, la mini-crise bancaire dans le secteur des banques moyennes peut effectivement affecter deux secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur immobilier et le secteur immobilier commercial notamment, parce que là, les banques ont été particulièrement actives dans ce financement. Et puis, bien entendu, je dirais, c'est peut-être des fragilités sur le crédit à la consommation. Il y a des défauts qui commencent à apparaître. Et puis, bien entendu, un coût du crédit qui, globalement, devient de plus en plus important. Donc, je ne dirais pas que la tension sur les secteurs des banques régionales va créer une récession américaine. Ouais. On n'en est pas encore là, mais par contre, ça va bien participer à un ralentissement de l'activité, un petit peu avec le même script que la zone euro, c'est-à-dire la consommation, l'investissement sont dans des zones de turbulence. Et effectivement, on va avoir, notamment provoqué par cet resserrement monétaire, eh bien, on va avoir in fine le ralentissement qu'attendait la Fed et qui pour l'instant effectivement ne transparaît pas encore dans les chiffres, mais va venir peut-être deuxième et troisième trimestre, un fléchissement de l'activité, sans parler de large récession, mais effectivement un ralentissement notable qui permettra peut-être à l'inflation justement de se dégonfler.
Justement, vous évoquez la Fed, c'est le grand événement des prochains jours, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette réserve fédérale pour terminer?
Alors, la même stratégie, effectivement, hausse de taux destinée à contenir l'inflation, 25 points de base sont attendues. Et par contre, de dire, et bien entendu, au même titre que les banques nationales suisses et la Banque Centrale Européenne, on est prêt à donner de la liquidité et peut-être un volet régulation pour ce secteur des banques régionales et des banques de moyenne taille.
Bon, et à part la Fed, qu'est-ce qu'on note pour l'agenda de la semaine prochaine ?
Alors, les PMI européens, donc confiance de l'industrie européenne, peut-être poursuite de la recomposition. Hein, on était en dessous de 50, on est passé au-dessus de 50, là qu'on peut se diriger entre 51 et 52, donc plutôt une stabilisation progressive. Et puis, eh bien, d'autres banques centrales, la Banque centrale anglaise, avec un débat entre est-ce qu'il faut continuer sur 50 points de base ou passer à 25 points de base de hausse de taux. Et puis aussi, alors ça c'est plus local, pour moi, c'est la Banque Nationale Suisse qui va se réunir et après les injections de liquidités, faut-il monter de 50 points de base à nouveau les taux d'intérêt directeurs ou faire une pause compte tenu des turbulences que l'on a encore dans le secteur bancaire suisse.
Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry, l'Union bancaire privée qui nous accompagnait ce matin. Nous maintenant, on se plonge dans le monde immobilier.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Nicolas Goyer, bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Merci d'être avec nous, fondateur de Flat Looker.
Looker. J'insiste, non, c'est ça.
De toute façon, dès que je dis un mot en anglais, entre guillemets, Marie me reprend. C'est une répétiteuse.
C'est ça. Une répétou, comme dirait ma fille. Petite dédicace.
On est dans le monde de la location meublée. Pas tout à fait touristique, enfin je veux dire pas au sens Airbnb du terme, c'est ça ?
Exactement. On fait de la location meublée et vide également, en moyenne et longue durée, plusieurs mois à plusieurs années.
Et vous faites une étude, puisqu'on va bénéficier de votre expertise dans ce monde-là. En clair, vous essayez de savoir qui veut louer où, c'est ça ?
Exactement. On a la chance, chez Flat Looker, d'avoir vu passer de nombreux candidats à la location. On a fait plus de 12 000 locations depuis notre création en 2016. Et on a analysé plus de 300 000 candidatures à nos logements. Et forcément, on se rend compte un peu d'évolution et de mobilité des locataires et des candidats locataires aux différents logements.
Et alors moi, j'ai envie de le vendre un peu. Est-ce que c'est vrai que nous, les Parisiens, on va partout et qu'on est quelque part, parce que même si on parle de candidats à la location, mais est-ce qu'on est quelque part responsable, comme beaucoup nous accusent, finalement de driver le marché et presque d'être responsable de l'inflation des prix au final ? Est-ce que vous voyez que les Parisiens sont vraiment tout le temps dans les grandes métropoles à l'origine de la plupart des...
C'est terrible, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, les Parisiens vont partout. À chaque fois, c'est les principaux locataires des différentes métropoles en France. Alors, à ceci près que la région parisienne, c'est une grosse région d'habitation et donc, naturellement, c'est représenté aussi par la population. Il y a un élément qui est intéressant à savoir, c'est quand on regarde uniquement la région parisienne, on se rend compte que la plupart des locataires de région parisienne viennent quand même de région parisienne. Donc les Parisiens aiment bien aller dans d'autres villes, mais ils aiment bien également
rester chez eux. Oui. Ouais, et alors, et quand même, hein, effectivement, si on regarde, parce que moi ce qui m'a intéressé dans votre étude, c'est que, effectivement, si on regarde ceux qui viennent d'ailleurs que la région cible, Paris est largement devant, mais en revanche, il y a des villes où c'est presque comme Paris, c'est-à-dire où vous avez quand même quasiment la moitié des candidats à la location qui viennent de la région des grandes villes ciblées. Donc c'est pas... forcément, je suis cliché de la parisienne, mais on n'est pas à l'origine quand même de tous les marchés, en fait. Hein.
Non, c'est vrai, et effectivement. Mais alors, sur ce sujet, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même une différence entre les villes. À Paris, en région parisienne, la moitié des locations sont faites par des Parisiens. Il y a d'autres villes, comme Lille ou Nantes, où la proportion est moindre. C'est plutôt 35 à 40% de locaux qui vont louer des logements localement. Donc on sent quand même que le marché n'est pas que drivé par la population locale, mais quand même dépend des autres villes françaises.
Et alors c'est laquelle ? Je crois qu'il y a une ville où c'est quasiment 20% des candidats locataires qui viennent de Paris, et c'est pas Paris.
Oui, c'est probablement Bordeaux.
Donc ils avaient raison à un moment donné, quand ils nous ont dit si les prix explosent à Bordeaux, c'est à cause de vous, les Parisiens. Ils avaient raison ?
Alors, il n'y avait pas que le marché général.
Là, notre étude, elle se concentre sur la location.
Ouais.
Et donc, probablement que l'augmentation des loyers peut être causée par ça. On n'a pas regardé l'augmentation des prix d'achat. Donc, du coup, je pourrais pas me...
Mais on sait que c'est corrélé. On sait que cette demande et que cet intérêt, il est corrélé aussi au prix de l'immobilier, quoi.
Absolument, oui. Les deux sont reliés. Et effectivement, quand il y a la demande locative et la demande à l'achat également.
Et vous avez vu un mouvement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'état actuel. Effectivement, vous faites une photographie de ce que c'est qu'aujourd'hui. Mais comment c'était hier, en fait? Moi, mon sujet, c'est est-ce que véritablement, depuis la crise sanitaire, on a vu de plus en plus, parce que l'histoire de Bordeaux, elle date d'avant la crise sanitaire. Hein. Donc, est-ce que vous voyez de plus en plus depuis la crise sanitaire, et on a beaucoup dit que les Parisiens ou les habitants des grandes métropoles, au sens large, voulaient partir. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de Parisiens qui veulent partir, quoi?
Alors, il y a eu un sursaut au moment de la crise sanitaire et l'année qui a suivi, mais maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. En fait, on est revenu à une situation qu'on avait pré-crise sanitaire, où la demande locative, finalement, n'est pas spécifiquement drivée par l'exode des Parisiens vers d'autres villes. On est sur des ratios à peu près similaires à avant.
Et en termes d'offres, parce que c'est ça le sujet, là, vous analysez la demande.
Oui.
On sait qu'il y a une forte demande et il y en aura de plus en plus tant que l'accès au crédit sera compliqué, l'est de plus en plus. On cherche à louer, évidemment. Mais en termes d'offres locatives dans toutes les grandes métropoles, est-ce qu'il y a suffisamment de quoi loger tout le monde? Parce que ça, c'est le vrai sujet.
Non, c'est clairement pas le cas. On a vu une explosion de la demande, notamment ces 6 derniers mois, et c'est directement lié à un appauvrissement de l'offre. Globalement, l'offre a diminué, moins de logements mis à la location, des locataires qui restent également plus longtemps dans leur logement parce que si jamais ils cherchaient à acheter pour changer de logement, et ben plus de difficultés à bouger et donc à acheter. Et donc, les logements se raréfient. Et donc, beaucoup plus de candidatures, peu importe la géographie, c'est une constante.
Donc là, vous nous décrivez ce qui est vraiment la crise du logement, hein, qu'on est en train de vivre, qu'on vit depuis des années, mais qui est encore plus forte aujourd'hui. Est-ce que, du coup, vous voyez forcément la corrélation de ça, c'est-à-dire peu d'offres, beaucoup de demandes, une forte augmentation des loyers? Est-ce que les différents encadrements, les encadrements à la relocation, est-ce que tout ça joue son rôle, ou est-ce que vous avez l'impression que, quoi qu'il arrive, là, on est sur une inflation des loyers qui est véritablement importante?
Effectivement, déjà, il y a une inflation des loyers naturels. Typiquement, l'indice
de IRL loyers,
a été mis à jour à un niveau hyper élevé qu'on n'avait jamais vu jusqu'avant, donc 3,5%. Et néanmoins, on sent qu'il y a une prise en compte des mesures d'encadrement de loyers, des mesures de non-augmentation des loyers à la relocation, typiquement sur les logements énergivores. Et donc, c'est des choses qui sont appliquées. Et nous, on ne voit pas vraiment d'augmentation des loyers plus que les 3,5% qu'on peut pratiquer avec l'IRL. Donc, il y a une augmentation, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus explosive.
Et justement, juste d'un mot pour terminer, les luttes contre les passoires thermiques, etc., vous l'analysez comment chez Flatlooker? Est-ce que vous pensez que ça va appauvrir encore plus l'offre de logements à la location?
Alors, oui, mais néanmoins, ça va être très progressif. En fait, il y a eu quelque chose de très alarmiste. On s'est dit, tiens, tous les logements avec un DPEG supérieur à 450, ça va être énormément de logements concernés. En fait, c'est très peu de logements. Nous, sur notre parc, au 1er janvier, c'était moins de 1% des logements qui étaient concernés. Ça sera beaucoup plus de logements dans un an et demi, deux ans, et ensuite encore plus de logements dans trois ans ensuite. Donc, c'est progressif. Et donc, on a le temps de s'adapter. Et nous, du coup, ce qu'on fait auprès de nos clients, c'est qu'on conseille des travaux à chaque remise en location au moment où le locataire va bouger pour se mettre dans la norme.
Merci beaucoup d'avoir ausculté ce marché de la location. C'est toujours intéressant.
Ouais, de se dire qu'on est responsable de tout, nous, les Parisiens. Voilà.
Qui veut louer où? C'était le résumé de cette enquête décrite avec passion par Nicolas Goyer pour Flatlooker.
Exactement.
Merci Marie pour ce petit cours d'anglais. Dans un instant, ce sont nos traders que l'on retrouve. Jean-Louis Cussac, Stéphane Soudetail, à tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin, deux traders lisent la séance du jour avec leur regard graphique, technique, et vous donnent les clés de cette lecture. Stéphane Sauduteil depuis Technibourg, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Stéphane, comment lire ce marché? Tout revient bien?
C'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai que ça va quand même mieux que hier en début d'après-midi et que mercredi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on a quand même échappé au pire en soutenant en fait cette zone de support qu'on a matérialisée toute la semaine autour des 6 950-7 000 points. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et puis, c'est vrai qu'on a été un peu sur courant alternatif tout au long de la semaine. Et puis là, on finit la semaine, alors je dis pas en roue libre quand même, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations ce matin. Mais on digère quand même cette forte reprise. Hein. On a eu une forte reprise sur le Nasdaq 100. On a repris plus de 8,5% depuis le point bas de lundi, plus de 2% sur le Dow Jones. Donc, c'est vrai que les investisseurs sont un peu rassurés du fait du soutien de 11 banques américaines à First Republic. Alors c'est vrai que la BCE a maintenu le cap hier. Hein, il y a eu une petite déception dans un premier temps, mais finalement la reprise des marchés américains a permis au CAC 40 de se reprendre et de regagner surtout des niveaux techniques un petit peu plus significatifs, c'est-à-dire 7020 points passés au-dessus, c'était un petit peu mieux. Et puis là, on s'est accroché sur les 7105 points, on rechute un petit peu. Donc j'ai l'impression que on va certainement souffler un petit peu aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait de grandes variations. J'imagine la séance aujourd'hui peut-être coincée dans un range assez étroit entre 7105 et 7040 en bas. Si de par hasard on devait poursuivre la hausse aux États-Unis, eh bien on pourrait aller chercher les 7150, 7170, qui sera un gros niveau technique, pas simple à déborder et qui pourrait renvoyer de nouveau le marché à la baisse. Par contre, si on passe sous les 7040 dans l'après-midi, là ça redevient un petit peu moins bien. On pourrait de nouveau viser les 7000 points, mais probablement guère plus bas. Je pense pas que cet après-midi on ait la possibilité de redescendre sur notre zone de points bas de ces derniers jours, hein, les 6950, voire les 6900. Voilà. Alors, est-ce que l'orage est terminé? Je crois qu'il faudrait quand même repasser au-dessus des 7170, 7150 pour en être beaucoup plus certain. Voilà, on peut dire que le marché est en convalescence positive pour le moment. Voilà, et on a aussi beaucoup d'hésitations sur l'euro-dollar. On voit que depuis quelques jours, hein, il est coincé dans un range très bien formaté entre 1,0520 et 1,0760. Là, on est un petit peu au milieu du range. Mmh. On a rebondi hier avec, bien sûr, la hausse de taux de 0,50 de la BCE.
Vision signée Stéphane Sauduteil, Jean-Louis Cussac. Voilà, même question. On va mieux?
Tout va mieux, oui, en effet. Mais bon, est-ce qu'on est dans l'œil du cyclone? C'est la question qui peut évidemment se poser. Bien. Parce que si en effet on a une accalmie sur le secteur bancaire, a priori, si vous voulez, les barbelés, on va dire, ont été vraiment mis par les Américains. Ils ont mis en place des mesures importantes pour soutenir le secteur, c'est rassurant. On verra l'efficacité dans le temps. Les tensions, en tout cas interbancaires, ont vraiment diminué, elles sont contenues. Les banques centrales vont peut-être être plus mesurées dans le resserrement monétaire. Bon, voilà, ça c'est la conséquence. Maintenant, on a 20 de volatilité implicite sur une reprise de 3,37 par rapport à 14h20 hier. 14h20, 8h ce matin, 3,37 de reprise. Là, on a reperdu 0,7. Je pense qu'on va continuer d'être secoué. Alors, les échéances, évidemment, vont amener beaucoup de volume, pas forcément en effet de gros écarts, mais tout est possible, parce que on paye encore, vous savez, là, sur les échéances de quelques heures, quand on veut racheter les options qui normalement devrait valoir en valeur théorique un point, par exemple, eh bien, le market, lui, il est à 3, il n'est pas pressé de venir servir, parce qu'il sait bien que tout est possible. Donc, c'est quand même une situation qui est en amélioration apparente, mais qui est vraiment très tendue quand même. Alors, moi, si vous voulez, je vends tant qu'on est sous 7125, c'est clair. On l'a fait ce matin. Bon, pas forcément dans des conditions... Bah, ce matin, oui, c'était facile, mais on avait commencé un peu hier soir. Et on reste avec un biais, un petit biais, on va dire, vendeur. Après, au-dessus de 125, on sera plus en train de vendre systématiquement, mais avec, si vous voulez, des signaux techniques. Et puis, au-dessus de 7250, pour l'instant, c'est comme ça, hein, on passera acheteur. Là, pour l'instant, bon, on est donc vendeur. On n'est pas dans la zone dangereuse absolue, mais on peut y retourner très vite. il faut rester super prudent. On a l'euro-dollar qui remonte, enfin de ce côté-là aussi. Et globalement, en gros, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'interrogations, pas beaucoup de réponses, que ce soit sur le niveau économique, géopolitique, etc. La situation reste tout de même tendue. Attention, et 11h50, c'est l'échéance de l'Eurostox.
Attention donc aux aspects techniques également. Merci Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance Conseil. Merci aussi à Stéphane qu'on retrouve tout à l'heure. Vous restez devant vos écrans de chez Technibourse et on se donne rendez-vous à 11h30, bien sûr. Le marché parisien qui pour le moment gagne 0,48%, 7059 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
L'Europe riposte aux États-Unis face aux milliards de subventions de Washington, subventions dédiées à l'industrie. Bruxelles sort son arsenal de mesures pour accélérer la transition verte sur le sol européen. De quoi s'agit-il ?
Je retiens globalement trois ambitions. Faire du made in Europe et puis effectivement essayer de répondre au protectionnisme américain de Trump qui lui finance le made in USA. Et troisième élément, réduire nos dépendances, notamment vis-à-vis de l'Asie, notamment vis-à-vis de la Chine, dans des quantités de domaines dont énormément de matières premières dont on va avoir besoin pour l'électrification massive de nos modes de vie. Puis là on n'en peut plus, quoi, depuis le début du mois de janvier. Même si les montants, finalement, américains sont quand même étalés sur 10 ans, c'est pas si monumental. Enfin, le nombre de projets européens qui ont été arrêtés en Europe pour être délocalisés aux États-Unis pour aller prendre les milliards de la Maison-Blanche. Dernière en date, Volkswagen, là, qui annonce qu'ils vont au Canada. Bon, là, les Européens réagissent.
Quelle est leur réponse ?
Alors, on a deux projets de textes législatifs qui seront soumis les 24 et 25 mars au Conseil européen, sous l'appellation Net Zero Industry Act. D'abord, il y a la volonté d'un énorme mouvement de simplification administrative. On ne peut pas attendre un an et demi, deux ans, voire plus, pour implanter un site en Europe. Il y a la volonté de lâcher la main aux États. En fait, ils financent ce qu'ils veulent pendant au moins trois ans. Vous financez, vous décidez, vous avez la... Voilà, on laisse les fameuses aides d'État fonctionner, ce qui est complètement en contradiction avec la doctrine historique de la Commission européenne en matière de concurrence. Cela dit, au passage, on risque d'avoir un sacré dérapage budgétaire avec des États qui risquent de faire un peu n'importe quoi, dans la mesure où l'Europe leur lâche la bride. Et un fonds de souveraineté doit avoir le jour mi-2023, mais on n'en sait pas plus. La volonté, c'est de produire sur notre sol 40% des technologies propres d'ici à 2030. Et alors ça, c'est très inattendu, extraire et raffiner 10% des matériaux critiques que nous consommons depuis le sous-sol européen. On parle de cobalt, de lithium, de silicium, de nickel, de cuivre. Et là, il y a 8 technologies qui ont été mises en avant et qui donc sont labellisées Net Zero Industry Act. Panneaux solaires, éoliens terrestres, batteries et stockage de l'électricité, captation et stockage du CO2, pompe à chaleur et pompe géothermique, pile à combustible. Et puis, point positif pour la France, une fois, c'est vrai, mais une fois quand même, est cité le nucléaire comme une voie de décarbonation, mais le nucléaire n'est pas cité comme une voie prioritaire. Enfin, quand même, le nucléaire apparaît. Voilà, en gros, ce que nous dit ce texte.
Et si on comprend bien, des textes qui créent une préférence européenne ?
Oui, c'est du protectionnisme. Il n'y a pas les droits de douane qui sont du protectionnisme un peu éhonté, mais c'est du protectionnisme. Après, je me suis dit, mais est-ce que c'est la bonne réponse ? Le problème, c'est que les premières réactions que j'ai eues, c'était plutôt des réactions de méfiance. Je me dis, en même temps, on ne va pas à chaque fois que l'Europe... Si l'Europe ne fait rien, on dit, elle ne fait rien. Mmh. Dès qu'elle fait quelque chose, on a tendance généralement à désinguer le projet. Alors, je vois bien, effectivement, tous les risques. Est-ce qu'on ne va pas subventionner des technologies matures alors qu'on ferait mieux d'investir dans l'innovation ? Parce que là, les 8 technologies, c'est quand même pas le Pérou. Est-ce qu'il faut qu'on fabrique, nous, des panneaux solaires plus chers ? Ou est-ce qu'il faut qu'on préfère, par exemple, l'intelligence artificielle ou la recherche médicale ? On doit reproduire chez nous ou pas des industries à faible valeur ajoutée. Les panneaux solaires, ça devient une industrie finalement à faible valeur ajoutée. Après, l'exécution, les Européens sont toujours très bons pour afficher des ambitions, mais l'exécution, les canaux de transmission, on sait que c'est compliqué. Bon, Thierry Breton est très, très volontaire. Hein. Il dit, c'est terminé la naïveté, maintenant on passe à l'acte. Maintenant, c'est l'action, dit-il. Il y a aussi un risque, ça va pas à l'encontre du marché unique européen ? Parce que vous avez les pays qui auront les moyens de subventionner massivement leur industrie verte, ceux qui n'auront pas les moyens de le faire, vous risquez d'avoir une Europe qui avance pas au même rythme, un peu de concurrence déloyale entre les États, c'est pas quelque chose qui va dans le sens d'une construction européenne, de là à dire que c'est de la déconstruction européenne. Bon, et puis il y a aussi j'attends de voir comment les écolos vont réagir quand on va leur annoncer qu'on fait des trous partout pour aller faire de l'extraction minière. Vous savez, on a un projet dans l'Allier là pour aller chercher du lithium qui doit démarrer en 2027. Imerys, je leur souhaite bien du courage quand ils vont commencer à faire venir les camions. Ça sent la ZAD à plein nez, ce truc. Bon, alors effectivement, les raisons de douter sont là. Mais objectivement, il faut faire quelque chose. Parce que là, il y a un match États-Unis-Chine qui se joue, et nous, on joue le rôle du filet, hein, les Européens. Et quand vous prenez quelques chiffres clés, États-Unis plus Chine, c'est 42% du PIB de la planète. États-Unis plus Chine, 60% des dépenses militaires, 80% du contrôle des capitales, du capital des licornes au niveau mondial. Et c'est 100% du contrôle des grandes plateformes numériques, GAFA d'un côté, et BATX de l'autre. Alors, il y a un moment, effectivement, où les Européens doivent réagir. Donc, j'ai envie de dire qu'on va laisser sa chance à cette initiative, en dépit de toutes les réserves qu'elle peut m'inspirer. Ils se prononceront les 24 et 25 mars prochains, lors du Conseil européen. Et je rappelle que 2030, la date de 2030, là, pour toutes ces ambitions, et ben, c'est à ce moment-là qu'on devra normalement avoir baissé nos émissions de CO2 de 55%. Comparé aux émissions que l'on produisait en 1990. C'est quand même ces fameuses dates là, qu'on voyait comme très lointaines.
Ouais, elles se rapprochent.
Se rapprochent sacrément.
Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas. Nous tout de suite on jette un œil sur les marchés financiers.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit coup d'œil sur ce marché qui reprend quelques couleurs. On est de retour au-dessus des 7000 points, 7065, et on progresse de 0,56%. Ça grimpe d'ailleurs un peu partout en Europe, puisque l'indice européen, l'Eurostock 50, est lui aussi dans le vert pour 0,8%. Du côté des principaux arbitrages, dans le vert de l'Alstom, du Soggen ou encore du Téléperformance. Et puis Hermès, Publicis ou Pernod ferme la marche. L'Eurodoll est à 1,0649.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Deux experts pour lire nos marchés, Éric Blaine et François Monnier. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric, bonjour à tous.
Merci d'être présent à notre rendez-vous du vendredi. François pour la rédaction d'Investir, Éric pour Swiss Life Gestion Privée. À l'issue de cette semaine un petit peu remuante, on va s'intéresser à cette crise de confiance dans le secteur bancaire. Parce que peut-être que ce secteur financier, au sens le plus large, c'est celui où la confiance compte le plus. Est-ce que, du coup, tout ce qui s'est passé cette semaine vous inquiète, Eric ?
Ben moi, il faut toujours être prudent, hein, mais je ne suis pas si inquiet que ça pour le secteur bancaire. Je trouve que le marché exagère beaucoup parce qu'il a en tête les différentes crises précédentes qui étaient issues du secteur bancaire. Mais comme l'a dit Christine Lagarde, hein, je suis tout à fait d'accord, dans le sens où on a fait beaucoup de choses pour le secteur bancaire de manière à ce qu'on ne recommence pas une faillite retentissante. Donc là, il y a deux événements, hein, l'événement américain et puis l'événement Crédit Suisse, donc en Suisse. C'est le même timing, mais ce sont deux événements très différents. Et en Europe, on a quand même pris des dispositions très importantes avec les accords de Bâle III, qui mettent plus de fonds propres, beaucoup plus de fonds propres, au moins le double. Là, on a le Crédit Suisse, qui est une banque systémique, donc elle a plus que ça. On a accru largement la liquidité des banques de manière à ne pas tomber dans un bankrun. On a accru aussi le provisionnement sur les crédits, là c'est pas le sujet, mais qui permet quand même d'avoir des provisions, et elles sont vérifiées par la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est des éléments quand même très importants. On a créé les Coco Bonds qui ont une surrémunération en termes obligataires pour pouvoir justement parer à une recapitalisation en cas de crise. Donc on a beaucoup d'éléments, et puis on l'a vu, hein, on a immédiatement les banquiers centraux qui interviennent pour garantir la liquidité en cas de bankrun et redonner de la confiance. Donc moi je suis moins inquiet que le marché aujourd'hui sur le secteur bancaire.
François, inquiet ou pas inquiet ?
Je pense, je dirais oui et non. C'est une réponse un peu normand. Alors, c'est vrai, je partage ce que vient de dire Eric. Il y a beaucoup de... On a renforcé les fonds propres, on a tout un arsenal de mesures, donc on pourrait être rassuré. Mais il n'empêche que ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que quand ça va mal, il y a que la banque centrale qui peut véritablement agir. Donc on est un peu toujours dans le même scénario. On se retourne vers les banquiers centraux pour injecter. Et là, on a vu que quand même la situation... Alors, facialement, on regarde les indices. Il se passe pas grand-chose, Cédric. On est sur un CAC 40 qui, cette semaine, perd 1,5%. J'ai envie de dire c'est quasiment une semaine normale. C'est après une telle hausse depuis le début de l'année, une baisse de 1,5%, c'est pas un événement. Mais derrière ces indices qui, finalement, font pas grand-chose, il y a quand même des énormes tensions. Et là, pour prendre l'ampleur de la mesure de ce qui se passe, c'est que on a déjà une banque centrale américaine qui a changé radicalement de discours. sa stratégie à partir de cet été, c'était de dire on va bien sûr poursuivre les hausses de taux, mais on attaque la réduction du bilan. 9 000 milliards de dollars de bilan au cours de l'été. On le réduit un peu tout doucement. Avant cette histoire SVB, Silicon Valley Bank, ils l'avaient ramené en dessous des 8 400 milliards. Donc, ils avaient fait un travail de réduction de 600 milliards. Et là, en une semaine, ils ont remis sur le tapis 300 milliards. Donc, tout de suite, on voit que la réduction du bilan, ça y est, c'est fini. Hein. Donc, on avait réduit de 600. Et il a fallu plusieurs mois pour réduire de 600. En une semaine, on réinjecte 300. Donc, les banquiers centraux, là, ils surveillent ça, j'ai envie de dire, le lait comme sur le feu. Donc, ils sont en alerte maximale. Et c'est pas parce que Christine Lagarde dit « je continue d'augmenter de 50 points de base parce que je lutte contre l'inflation » qu'elle, derrière, c'est pas, il y a un peu de panique, hein, quand même, quelque part. En tout cas, en termes d'alerte au niveau des banquiers centraux. Mais, pour l'instant, on peut dire qu'ils gèrent plutôt bien la situation. Hein. SVB, voilà, ça y est, les clients sont protégés. Crédit Suisse, la Banque Nationale Suisse, fait un prêt en urgence de près de 50 milliards, donc c'est réglé. On surveille, bien sûr, à qui le tour, hein, parce qu'on le voit. Donc, j'ai envie de dire, au niveau des instruments financiers, on a le sentiment que l'affaire est réglée. Simplement, on n'est pas comme en 2008. En 2008, le vrai sujet, c'était les subprimes. C'était techniquement où sont les actifs un peu pourris. Là, aujourd'hui, c'est attention, les clients peuvent partir du jour au lendemain. Donc, en gros, le mot qui revenait dans la bouche de tous les commentateurs, c'était subprime. Aujourd'hui, c'est bankrun. Mmh. C'est le client qui a peur et qui veut récupérer son cash tout de suite parce qu'il ne voudrait pas avoir quelques soucis. Et ça, on sait que maintenant, l'argent, ça vaut cher. Avant, l'argent, c'était gratuit. Maintenant, ça vaut cher. Donc, les clients veulent absolument avoir des garanties de pouvoir avoir accès au cash facilement. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer. Il faut être quand même relativement vigilant.
Attentif.
Il faut être attentif parce qu'on le voit qu'à un moment donné, on était persuadé que tout allait bien. Et là, on voit qu'il y a quand même quelques craquements.
Mais malgré tout, en Europe, on voit bien que c'est le problème Crédit Suisse. Vous l'avez évoqué tous les deux et qu'on redoute finalement une faillite. Il faut mettre le mot sur la table de Crédit Suisse. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Ce qu'il y a d'étonnant, parce que vous citiez tout ce qui a été mis en place, mais aujourd'hui, Crédit Suisse qui inquiète tant que ça, en fait, Crédit Suisse, il passerait les stress tests. Entre guillemets, tous les clignotants sont ouverts et pourtant, on redoute un risque de faillite.
Oui, on redoute un risque de faillite parce que la confiance, vous l'avez dit au début, hein, Cédric, la confiance n'est plus là. Donc, à partir du moment où la confiance n'est plus là, les marchés...
Tous les clignotants peuvent être ouverts.
Et oui, il faut de la confiance. Et là, c'est le sujet principal. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? D'abord, bon, pour commencer, il y a un problématique managérial. Le patron de...
Oui, parce que c'est tout sauf une surprise, quand même, cette histoire.
Bah, ça fait un moment, quand même, qu'on...
Ça fait plusieurs années que ça chauffe.
Voilà.
La surprise, c'est que Crédit Suisse, c'est encore des clients.
Oui.
C'est taquin.
Alors, moi j'avais comme patron Ulrich Körner, qui est aujourd'hui directeur général du Crédit Suisse. Bon, je vais être gentil avec lui, il ne m'a pas impressionné. Donc, je ne suis pas surpris que Crédit Suisse n'aille pas très bien aujourd'hui, franchement. Maintenant, le sujet Crédit Suisse, c'est aussi avant Ulrich Körner, parce qu'on a eu plein de sujets où on a l'impression que Crédit Suisse n'a pas une prise ferme sur ses affaires. On a eu plein de sujets depuis un long moment sur des pertes de trading avec Arkéos Capital, avec Greens Hill Capital, avec des amendes sur des histoires de condamnation pénale avec un trafiquant de drogue, avec une histoire de corruption au Mozambique, une histoire d'espionnage aussi avec qui impliquait un ancien employé et un cadre dirigeant donc du Crédit Suisse. On a aujourd'hui 2 ans de retour en arrière sur des pertes qu'on accumule. Donc, il y a vraiment un sujet de contrôle. Je ne sais pas ce qu'ils font au conseil d'administration, en particulier à la commission d'audit, je ne sais pas, mais il y a un sujet. Il y a un sujet de direction générale, il y a un sujet de maîtrise des affaires générales. Donc là, il y a forcément quelque chose à faire. Quand le Crédit Suisse vaut 10 milliards en bourse, effectivement, on peut s'inquiéter. Donc, il va se passer des choses, hein, ça c'est clair, au niveau du management, sur le plan des cessions, éventuellement un rapprochement bancaire, avec une autre institution. En tout cas, le conseil d'administration doit bouger, certainement. Et puis, on va certainement passer par une recapitulation pour redonner confiance. Donc, on en arrive là parce qu'il y a une succession de faits qui montrent qu'on n'a pas prise ferme sur les affaires. La banque d'investissement ne crache pas suffisamment alors que toutes les autres marchent bien. Si les clients de la banque classique s'en vont, il y a un problème de confiance qu'il faut régler.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce feuilleton, j'ai envie de dire, ou cette histoire Crédit Suisse ?
On a longtemps vanté les mérites de la banque suisse, la solidité de la banque suisse, et il s'avère que finalement les banques françaises sont bien meilleures dans ce domaine, en tout cas en termes de contrôle des risques et en termes de gestion opérationnelle. Donc, il ne faut pas non plus dire tout le secteur va mal parce que Crédit Suisse va mal. Mais on a le sentiment aujourd'hui que le vrai sujet, c'est la confiance. C'est l'industrie financière, c'est pas une industrie comme les autres. La situation peut vite se retourner. Et c'est pas parce que vous avez finalement beaucoup d'actifs que vous êtes protégé. Il faut entretenir cette confiance. Et ça, c'est ça qui a une vraie valeur. Et cette crise de confiance, il faut voir au bout de combien de temps on va arriver à la dissiper. On le sait, les investisseurs avaient quand même pas mal de banques aujourd'hui dans les portefeuilles parce que les banques profitent normalement de la hausse des taux. Mais il faudrait pas que cette crise de confiance vienne casser cette dynamique parce qu'on sait qu'on a des niveaux de valorisation qui sont très faibles, mais ils peuvent rester très faibles. On a vu dans l'histoire, en tout cas boursière, que parfois il y a des actifs et des sociétés qui décotent historiquement et il s'avère que cette décote, elle est justifiée parce que tous les 5 ans ou tous les 8 ans, il y a un coup de Trafalgar et finalement on n'arrive pas à sortir de cette situation par le haut. Donc il faut rester vigilant à l'égard de ce secteur. Crédit Suisse, une des bonnes nouvelles, ce serait qu'il y ait, d'abord je pense que la banque risque de se scinder en deux, c'était un des projets, et puis il faudrait qu'elle se fasse peut-être absorber. Alors généralement dans ce secteur-là, les banques qui vont très très mal se font jamais racheter parce qu'à cause des effets de levier on risque de prendre une mauvaise affaire, donc ça prend énormément de temps, c'est un peu comme un réacteur nucléaire, pour l'éteindre avec les histoires de hors bilan, les contreparties, etc., c'est extrêmement c'est pas une industrie automobile où on rachète un site industriel. C'est beaucoup plus complexe que ça, donc ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps.
Juste pour terminer, parce qu'il nous reste 2 minutes, donc j'aurai une réponse brève de l'un et de l'autre. Depuis des semaines, on dit, oui, regardez, cette remontée de taux, enfin, ça libère les banques, ça améliore leur business, etc. Et puis là, depuis quelques heures, on nous dit, voyez, c'est à cause des hausses de taux, on finit par voir concrètement ce que nous a coûté, entre guillemets, cette hausse de taux. Alors quoi, la hausse de taux, c'était bon ou pas bon pour les banques ?
C'est vrai. Moi, je crois que c'est bon, cette hausse de taux, en particulier pour les banques classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les retail banks, les Crédit Agricole, par exemple, qui ont une faible banque d'investissement. Donc, cela, c'est bon. Pourquoi ? Parce que, on rémunère mieux les dépôts. Or, dans les banques classiques, il y a beaucoup de dépôts. Donc, ça, c'est inversement où ils étaient pénalisés, maintenant, ils sont rémunérés. Et deux, parce qu'en remontant les taux, on augmente donc la rentabilité sur le crédit. Donc, forcément, pour une banque retail, c'est meilleur. Après, pour la banque d'investissement, on le voit, ça crée beaucoup de mouvements sur les bourses et il y a des bulles qui éclatent. Donc ça veut dire qu'il y a de la volatilité sur les marchés. Les bonnes banques d'investissement, elles gagnent de l'argent là-dessus. Les mauvaises, elles en perdent. Ça, c'est la différence.
François, non, bon ou pas bon ?
Alors je dirais que c'est bon, à condition que les banques ne soient pas dans la situation où ils doivent vendre en urgence leurs actifs. Le problème d'avoir eu de détenir des obligations, il n'y a pas de risque de contrepartie, en tout cas de perdre de l'argent si votre obligation vous l'amenez à terme. Si vous devez la vendre en urgence, si y a la hausse des taux, la valeur de cette obligation, elle vaut moins cher.
Donc, faut faire du portage et pas de la spéculation.
Il faut se couvrir. Ouais. SVB, Silicon Valley, a ignoré, avait tout placé ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire tous les actifs qui sont extrêmement sensibles au taux, que ça soit du marché hypothécaire ou le marché obligataire emprunt d'État, et donc finalement, aucun instrument de couverture. Donc là, forcément, là, erreur de gestion. Et donc, les erreurs de gestion, quand on a des situations qui se retournent, ça se paye très très cher. Donc, mais il y a des banques qui gèrent très très bien ce métier. Et le métier de la banque, c'est quand même de gérer les flux de taux.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé autour de ces questions. On se retrouve tous les trois tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. D'ici là, on va faire un petit détour sur les marchés grâce à Michael Jacobi. Et puis on retrouvera un regard croisé. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.